Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Je tiens Guerre et Paix pour le plus beau roman qui ait jamais été écrit en tout temps et en tout pays.
André Mauroy.
Je veux dire seulement que le grand roman de Tolstoï est le plus proche de la vérité totale, le plus romanesque au sens complet du mot, le plus profondément humain qui ait jamais été conçu et exécuté.
Ça peut pas faire de mal.
En 1500 pages, un monde fut créé. Un monde aussi vrai que le monde réel, plus vrai même, car nous connaissons la famille Rostov, la famille Bolkonski, Boris Drubetskoy et sa mère, le prince Basile et sa fille, mieux que nous ne connaissons nos amis et notre propre famille.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Le salon commençait peu à peu à se remplir. La plus haute société de Pétersbourg se réunissait chez Anna Pavlovna. La fille du prince Basile, la belle Hélène, vint chercher son père pour se rendre avec lui à la réception de l'ambassadeur. Sa robe de bal s'ornait de l'insigne des demoiselles d'honneur. Puis arriva la jeune et mignonne princesse Bolkonski, la femme la plus séduisante de Pétersbourg, disait-on. Suivirent l'abbé Moriot et d'autres encore. L'important, affirmait l'abbé, c'est l'équilibre européen. Il suffit qu'un État puissant et réputé barbare comme la Russie se mette généreusement à la tête d'une ligue ayant pour but l'équilibre européen et ce pays sauverait le monde. Comment donc obtiendrez-vous cet équilibre ? Commence la pierre. Mais à ce moment, un nouveau personnage fit son entrée dans le salon. C'était le prince André Bolkonski, le mari de la petite princesse. De taille moyenne, il avait un beau visage aux traits secs, bien accusés. Ayant baisé la main d'Anna Pavlovna, il parcourut du regard l'assemblée. « Vous vous enrôlez pour la guerre, mon prince ?» dit Anna Pavlovna. « Le général Kutuzov, » répondit Bolkonski en accusant la dernière syllabe à la française, « a bien voulu de moi pour être de camp. Élise, votre femme, elle s'installera à la campagne. Comment n'avez-vous pas honte de nous priver de votre délicieuse femme ?»«
André, » dit la princesse à son mari sur le même ton de coquetterie qu'elle prenait avec les étrangers, « quelle excellente histoire vient de nous raconter le vicomte sur Bonaparte ?»
Pierre, qui depuis l'entrée du prince André n'avait cessé de le suivre d'un regard amical et joyeux, s'approcha par derrière et lui prit le bras. « Tiens, tiens, te voilà toi aussi dans le grand monde, » dit André. Soutenant légèrement d'une main les plis de sa robe, la princesse Hélène passa entre les chaises et son sourire resplendissait plus radieux que jamais sur son merveilleux visage. « Très belle, » dit le prince André. « Très, » acquiesça Pierre. Cette scène de salon où brillent les promesses de la jeunesse aristocratique ouvre l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature russe, « Voïna i mir »,« Guerre et paix » de Léon Tolstoï. Ainsi traduit en français, le titre connaît une confusion suite à la réforme de l'orthographe russe en 1918, le mot « mir » signifiant à la fois « la paix » et « le monde ». On sait que Tolstoï, grand lecteur de Proudhon, avait emprunté son titre à un essai du socialiste français. Mais qu'on le traduise par « la guerre et le monde » ou « la guerre et la paix », le célèbre roman de Tolstoï traite d'un seul et même sujet, le bouleversement de la société russe suite aux grandes batailles napoléoniennes. Paru en 1869, cette passionnante fresque historique couvre une période de 15 ans, entre 1805 et 1820, où se joue le destin de trois garçons. Pierre Bezoukhov et André Bolkonski, dont nous avons déjà fait la connaissance, et celui de Nicolas Rostov, issu d'une grande famille de Moscou. Si la guerre est là, d'autres guerres d'influence s'annoncent, où se mêlent l'argent et les femmes. Qui épousera la belle Hélène et la séduisante Natacha Rostov ? Autour d'eux, Tolstoï évoque sur plus de 1800 pages la vie de quelques 500 personnages, tous touchés de près ou de loin par la campagne de Russie menée par Napoléon. Lorsqu'il commence la rédaction de son immense projet en 1863, l'écrivain a pour ambition de retracer les années de formation de certains nobles, futurs révolutionnaires, qui seront en 1825 impliqués dans le mouvement des décembristes et condamnés comme les auteurs d'un coup d'État avorté contre le tsar. Mais revenons au début de l'histoire et parcourons cette œuvre magistrale. « Guerre et paix » dont Tolstoï disait, je cite, « qu'elle est ni un roman ni une nouvelle, mais le récit de tous les aspects de la vie. »
cette vie qui continue, où, je cite encore, « il n'y a pas de héros, il n'y a que des hommes ». Extrait de la traduction de Boris de Schoelzer aux éditions Gallimard. Retrouvons l'un de nos jeunes garçons sur le champ de bataille. Quelques semaines après la soirée chez Anna Pavlovna, alors qu'il a confié sa femme Lise, enceinte, aux soins de la maison familiale, le prince André Bolkonski fait preuve d'un grand courage au combat. Mais sa témérité ne changera pas l'histoire. Le 2 décembre 1805, un an après son sacre, l'empereur Napoléon remporte sa plus éclatante victoire. Nous sommes dans la plaine d'Austerlitz. Après une charge héroïque à la tête de son bataillon, André tombe gravement blessé. Il tendit l'oreille à des bruits qui se rapprochaient, des pas de chevaux, des voix. On parlait français. Il ouvrit les yeux. Il vit de nouveau au-dessus de lui le même ciel immense où voguaient encore des nuages à travers lesquels transparaissait un infini azuré. Il ne tourna pas la tête et ne vit pas ceux qui, à en juger par le bruit des sabots et les voix, s'étaient approchés de lui, s'étaient arrêtés. C'était Napoléon, accompagné de 2 aides-de-camp. Bonaparte parcourait le champ de bataille et, tout en donnant ses derniers ordres pour le renforcement des batteries, il examinait les morts et les blessés restés sur le terrain. Il poussa son cheval et s'arrêta devant le prince André, étendu sur le dos, la hampe du drapeau à côté de lui. Le drapeau lui-même avait déjà été emporté par les Français comme trophée. « Voilà une belle mort, » dit Napoléon en regardant Bolkonski. Le prince André comprit qu'il s'agissait de lui et que c'était Napoléon qui parlait. Mais il l'entendait comme il aurait entendu le bourdonnement d'une mouche. Non seulement il ne s'intéressait pas à ses paroles, mais il ne le remarqua pas et les oublia immédiatement. Sa tête brûlait, il sentait son sang s'écouler, et il voyait au-dessus de lui le ciel lointain, infini, éternel. Il savait que c'était Napoléon, son héros, qui était là. Mais Napoléon lui paraissait désormais si petit, si insignifiant en comparaison de ce qui se passait maintenant entre son âme et ce ciel si haut, infini, où couraient les nuages. Il était simplement heureux que des gens se fussent arrêtés auprès de lui et désirait seulement qu'on le secourût, qu'on le fît revenir à la vie, cette vie qui lui semblait si belle, parce qu'à présent il la comprenait différemment. Il rassembla toutes ses forces pour faire un mouvement et émettre un son quelconque. « Ah, il vit !» Qu'on relève ce jeune homme et qu'on l'emporte au poste de secours. Le prince André ne garda aucun souvenir de ce qui se passa ensuite. La terrible douleur que lui infligèrent l'installation sur la civière, les chaos pendant le transport et le sondage de la plaie au poste de secours lui firent perdre connaissance. Il ne revint à lui qu'à la fin de la journée, lorsqu'avec d'autres officiers russes blessés, il fut transporté à l'hôpital. À la tombée du soir, Bonaparte arriva au galop et arrêta son cheval pour l'inspection des prisonniers. Napoléon se souvint évidemment de Bolkonski pour l'avoir vu sur le champ de bataille et s'adressa à lui. « Et vous, jeune homme, comment vous sentez-vous, mon brave ?» 5 minutes auparavant, le prince André avait pu échanger quelques mots avec les soldats qui le transportaient. Mais à présent, les yeux posés sur Napoléon, il se taisait. En regard de ce ciel immense, juste et bienveillant qu'il avait découvert et compris au moment de sa blessure, tout ce qui occupait l'esprit de Napoléon lui semblait si misérable. Napoléon lui-même, son héros, lui apparaissait si mesquin avec sa petite vanité et la joie de sa victoire qu'il lui fut impossible de répondre à l'empereur. Tout était d'ailleurs si petit, si inutile en comparaison des pensées solennelles dans lesquelles le plongeait l'épuisement de ses forces, la souffrance du sang perdu et l'attente d'une mort prochaine. En regardant droit dans les yeux Napoléon, le prince André songeait à la vanité de la grandeur, à la vanité de la vie, dont nul ne pouvait comprendre le sens, à la vanité plus grande encore de la mort qu'aucun vivant ne pouvait comprendre et expliquer. Découvrons à présent la jeunesse insouciante de la famille Rostov. 5 ans après la bataille d'Austerlitz, la paix est enfin de retour, pour quelques années seulement. Guéri de ses blessures, mais terrassé par le chagrin d'avoir perdu sa femme, morte en couche en donnant naissance à leur fils, André Bolkonski vit retiré dans son domaine de Boguchárovo. Son ami, Pierre Bezoukhov, après avoir hérité de la fortune de son père, s'est marié à la belle Hélène, dont les réceptions sont très prisées à Moscou. Loin des mondanités, profitons de cette trêve pour assister à une joyeuse fête de Noël chez les Rostov, dans leur propriété à la campagne. Nous y ferons la connaissance de la belle Natacha, de son frère Nicolas et de sa cousine Sonia, dont le jeune homme était éperdument amoureux. Costumée et grimée selon la tradition, toute la famille se rend en traîneau chez des voisins pour la parade masquée. Voici cette folle virée nocturne comme l'illusion d'une jeunesse éternelle. Le costume de Sonia était le plus réussi. Ses moustaches et ses sourcils noirs lui allaient extraordinairement. Tout le monde lui disait qu'elle était très jolie et elle se sentait pleine d'entrain et d'assurance, ce qui ne lui était guère habituel. Une voix intérieure lui disait que son sort allait se décider ce jour-là ou jamais. Dans son habit masculin, elle semblait transformée. Habillée en hussard, Natacha, la première, donna le ton de cette joyeuse équipée. Sa gaieté se communiqua de l'un à l'autre pour atteindre son paroxysme, lorsqu'ils sortirent tous à l'air glacé et s'interpellant, riant et criant, s'installèrent dans les traîneaux. La troïka du vieux comte s'ébranla dans le tintement grave de sa clochette et le grincement de ses patins que le gel semblait avoir soudés à la neige. Les chevaux de volée se serraient contre les brancards et, brassant la neige dure et brillant comme du sucre, s'enfonçaient dedans. Nicolas suivit le premier traîneau. Les autres s'ébranlèrent à leur tour en grinçant. Sur le chemin étroit, on prit d'abord au petit trot. Tant qu'on longea le parc, les ombres des arbres dénudés coupaient fréquemment la route et voilaient la clarté de la lune. Mais dès qu'on eut franchi la clôture, la plaine neigeuse, étincelant comme des diamants aux reflets bleuâtres, s'étendit de toutes parts à l'infini, inondée de lumière. La voix de Natacha retentit dans l'air glacé. « Une piste de lièvre ! Encore et encore ! Comme on y voit bien, Nicolas !» fit la voix de Sonia. Nicolas se tourna et se pencha vers elle pour voir son visage de plus près. Un visage charmant et tout nouveau, aux sourcils et aux moustaches noires, à la fois proche et lointain, émergeait du col de Zibeline sous la clarté lunaire. Autrefois, c'était Sonia, pensa Nicolas. Il la considéra de plus près encore. « Qu'y a-t-il, Nicolas ?» murmura la jeune fille. « Rien, » répondit-il. Et il se tourna de nouveau vers les chevaux. Ayant débouché sur la grande route, poncée par les patins des traîneaux, les chevaux accélérèrent l'allure. « Allons-y, mes chéris !» cria Nicolas, et il agita d'une main les guides tandis qu'il brandissait de l'autre son fouet. Et ce ne fut qu'à la violence accrue du vent qui frappait au visage que l'on put juger de la vitesse de la troïka. Nicolas jeta un coup d'œil en arrière. Poussant des cris aigus, les autres tenaient bon. Nicolas rejoignit la troïka de tête. Ils dévalèrent ensemble on ne sait quelle côte et se trouvèrent sur un large chemin frayé à travers prés le long d'une rivière. « Où sommes-nous ? » se demanda Nicolas. « Sans doute dans le pré Kossoy. Mais non, je ne reconnais pas les lieux. Tu sais ce que c'est ? C'est un pays nouveau, enchanté. Et puis qu'importe ?» Il excita les chevaux de la voie pour dépasser la première troïka. Autour de lui, c'était toujours la même plaine enchantée, pénétrée de lumière, parsemée d'étoiles. « Est-ce que nous allons chez les Melyukov ?» songeait Nicolas. « Ce village est-il Melyukovka ? Nous allons Dieu sait où et Dieu sait ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive est très étrange et très plaisant. » Il se retourna vers les occupants du traîneau. « Regarde, il a les moustaches et les cils tout blancs, » dit l'une de ces personnes bizarres, charmantes et inconnues. Elles avaient de fines moustaches et de fins sourcils. « Celle-là en hussard, je crois que c'est Natacha, » se dit Nicolas. « Et ce magnifique circassien avec ses moustaches noires, je ne sais qui c'est, mais je l'aime. »« Vous n'avez pas froid ?» demanda-t-il. On ne répondit que par des rires. « Voici cependant une forêt enchantée, pleine d'ombres noires, chatoyantes, parsemées de diamants, et une enfilade de degrés de marbre, et les toits d'argent d'édifices féeriques, et les cris stridents d'on ne sait quels animaux. Si c'est bien Melyukovka, le plus curieux, c'est qu'en allant Dieu sait où, nous soyons tout de même arrivés, » songeait Nicolas. C'était en effet Melyukovka. Des domestiques portant des bougies apparurent sur le perron, le visage réjoui.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Hosein ein Go und das Leben, es gibt von uns, so wie es. Aber moin! Frankfurt mit Liebe gebrennt. Heim bist du da, als der Kopf ist schon groß und es zittert bei mir schon in die Hände. Pamaboy, 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 bist du gewesen.
Au cours de l'hiver 1811, le charme de Natacha Rostov fait des ravages. Lorsqu'elle apparaît pour la première fois sous la plume de Tolstoï, Natacha est encore une fillette jouant à la poupée. Puis la jeune fille grandit, et ses dons naturels pour la danse et le chant émerveillent ses proches. C'est en l'entendant chanter au piano que le prince André, bouleversé, fond en larmes et tombe amoureux d'elle. Bientôt les fiançailles sont annoncées, mais le père d'André, un vieil homme autoritaire, exige un délai d'un an avant le mariage. André ressent le besoin de partir pour l'étranger, laissant Natacha dans le plus grand trouble. Longtemps mélancolique, la jeune fille reprend peu à peu goût à la vie. La voici un soir à l'opéra en compagnie de Sonia et de son père. Dans la loge voisine, elle reconnaît la comtesse Hélène, la femme de Pierre Bezoukhov. L'apparition de ces deux jeunes filles exceptionnellement jolies, Natacha et Sonia, accompagnées du comte Ilya Andreïevitch, qu'on n'avait pas vu à Moscou depuis longtemps, attira immédiatement l'attention générale. Natacha avait embelli à la campagne, tous le lui disaient. Et ce soir-là, son émotion la rendait particulièrement belle. Ce qui frappait en elle, c'était sa plénitude de vie, sa beauté, jointe à une attitude de totale indifférence pour tout ce qui l'entourait. Ses yeux noirs considéraient la foule sans y chercher personne. Non loin d'elle, la comtesse Hélène, à demi nue, jouissait de la lumière éclatante répandue dans la salle et de la tiédeur de l'air réchauffé par la foule et ne quittait pas des yeux la scène. Natacha se sentit peu à peu gagnée par une ivresse qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Elle ne savait plus ce qui lui arrivait, où elle était, ce qui se passait en elle. Pendant l'un des moments où tous se taisaient sur scène, la porte de la loge des Bezoukhov grinça et on entendit les pas d'un spectateur attardé. « Voilà Kouragin !» chuchota un ami des Rostov. La comtesse Bezoukhov se retourna en souriant vers le nouveau venu. Natacha suivit la direction de son regard et vit un officier d'une rare beauté qui approchait. C'était Anatole Kouragin, qu'elle avait vu et remarqué naguère à un bal à Pétersbourg. Il portait à présent l'uniforme d'aide de camp avec une seule épaulette et des aiguillettes. Bien que le spectacle fût commencé, il marchait sans hâte sur le tapis, faisant légèrement teinter ses éperons et son sabre, et portant haut sa belle tête parfumée. Ayant jeté un regard vers Natacha, il s'approcha de sa sœur, se pencha vers elle et lui dit quelques mots en montrant Natacha. « Mais charmante, » dit-il, parlant évidemment d'elle, ainsi que Natacha le devina au mouvement de ses lèvres, plus qu'elle ne l'entendit. Le premier acte prit fin. À l'entracte, une bouffée d'air frais pénétra dans la loge, la porte s'ouvrit et Anatole entra. « Permettez-moi de vous présenter mon frère, » dit Hélène qui l'accompagnait. Natacha tourna par-dessus son épaule nue sa jolie tête vers le bel officier et sourit. Anatole, qui était aussi beau de près que de loin, s'assit à côté d'elle et lui dit qu'il souhaitait depuis longtemps lui être présenté. Natacha fut agréablement surprise que cet homme dont on racontait tant de choses s'exprimât avec autant d'assurance et de naturel. « Et savez-vous, comtesse, » dit-il parlant soudain comme à une vieille connaissance, « nous organisons un carrousel costumé. Vous devriez y prendre part, ce sera très amusant. Je vous en prie, venez, n'est-ce pas » insista-t-il. En disant cela, il ne détacha pas ses yeux souriants du visage, du cou, des bras nus de Natacha. Natacha ne doutait pas qu'il l'admirât et cela lui était agréable. Cependant, sans savoir pourquoi, sa présence commençait à lui peser, la rendait mal à l'aise. Quand elle ne le regardait pas, elle sentait qu'il regardait ses épaules et elle cherchait involontairement à saisir son regard pour qu'il la regardât plutôt dans les yeux. Mais en la regardant dans les yeux, elle sentait avec effroi que cette barrière de pudeur qui la séparait toujours des autres hommes n'existait plus du tout entre elle et lui. Au bout de 5 minutes, elle se sentait, sans savoir comment, terriblement proche de cet homme. Quand elle se détournait, elle avait peur qu'il ne lui saisît son bras nu par derrière ou ne lui baisât le cou. Ils parlaient des choses les plus anodines et elle sentait qu'ils étaient proches l'un de l'autre, comme jamais elle ne l'avait été d'aucun homme. Pour rompre une de ces minutes de silence gênant pendant lesquelles Anatole la regardait calmement, avec insistance, de ses yeux saillants, Natacha lui demanda comment lui plaisait Moscou. Il lui semblait tout le temps qu'en lui parlant, elle faisait quelque chose d'inconvenant. Anatole sourit comme pour la réconforter. Tout d'abord, qu'est-ce qui rend une ville agréable? Ce sont les femmes, n'est-il pas vrai? « Eh bien maintenant, Moscou me plaît beaucoup, » dit-il d'un air significatif. « Viendrez-vous au carrousel, comtesse ? Venez. » Puis, tendant la main vers le petit bouquet qu'elle tenait serré contre elle, et baissant la voix, il ajouta « Vous serez la plus jolie. Venez, chère comtesse, et comme gage, donnez-moi cette fleur. » Ne sachant que dire, elle le regarda droit dans les yeux, et sa proximité, son assurance et son sourire caressant eurent raison d'elle. Elle lui sourit exactement comme il lui souriait, en le regardant dans les yeux. Et de nouveau, elle sentit avec terreur qu'il n'y avait pas de barrière entre elle et lui. Le rideau se leva. Anatole quitta la loge, calme et gai. Natacha reprit place auprès de son père, déjà complètement soumise à cet univers qui l'entourait. Pas une seule fois il ne lui arriva de penser à son fiancé, à leurs promesses échangées, à son attente, comme si tout cela appartenait à un passé lointain, complètement révolu. Retrouvons le prince André un an plus tard. Suite à sa rencontre avec Anatole Kouraguine, Natacha a voulu fuir avec son amant. Mais leur projet d'enlèvement a été découvert à temps. Tombée en disgrâce aux yeux de ses proches, Natacha traverse une longue période de repentir. Seul Pierre Bézoukhov lui apporte son soutien. Un soutien qui se transforme peu à peu en sentiment interdit. À son retour, mis au courant de l'affaire, André Bolkonski rompt brutalement leurs fiançailles. Nous sommes en 1812. Après avoir conquis presque toute l'Europe, Napoléon se lance dans la campagne de Russie. Par devoir, Pierre Bézoukhov décide de rejoindre les troupes de Kutuzov. Il y retrouve son ami, le prince André. Le 7 septembre, la terrible bataille de la Moscova, ou bataille de Borodino, donne la victoire aux Français. 7 ans après sa blessure à Austerlitz, André Bolkonski est à nouveau grièvement blessé. Il y avait 3 tables dans la tente. 2 étaient occupées, le prince André avait été déposé sur la 3e. On le laissa seul quelque temps et il vit involontairement ce qui se passait autour de lui. Sur l'une des 2 tables, autour de laquelle se pressaient beaucoup de gens, un homme grand et fort était couché sur le dos, la tête rejetée en arrière. Ses cheveux bouclés, leur teinte, la forme de la tête parurent étrangement familiers au prince André. Plusieurs infirmiers maintenaient cet homme en pesant de tout leur poids sur sa poitrine. Une de ses jambes, grande, blanche et grasse, était parcourue sans arrêt de tressaillements rapides, spasmodiques. L'homme sanglotait convulsivement et hoquetait. 2 médecins, l'un était blême et tremblait, faisaient en silence quelque chose à l'autre jambe de cet homme, celle-là rouge. 3e médecin s'approcha du prince André. « Déshabillez-le. Qu'avez-vous à rester là ? » cria-t-il aux infirmiers d'un ton irrité. Sa toute première enfance revint à la mémoire du prince André tandis qu'on lui ôtait ses vêtements. Le médecin se pencha sur la plaie, la palpa et soupira profondément. Puis il fit signe à quelqu'un et une atroce douleur au ventre fit perdre connaissance au prince André. Lorsqu'il revint à lui, les fragments du fémur étaient extraits, les lambeaux de chair coupés et la plaie pansée. On lui aspergeait le visage d'eau froide. Aussitôt qu'il eut ouvert les yeux, le médecin se pencha sur lui, le baisa silencieusement aux lèvres et s'éloigna en hâte. Après les souffrances qu'il venait de subir, le blessé ressentait une béatitude depuis longtemps inconnue. Les plus heureux moments de son existence et surtout de sa lointaine enfance, quand on le déshabillait et le couchait dans son petit lit, quand sa nounou le berçait en chantonnant, quand la tête enfouie dans l'oreiller, la seule conscience de vivre suffisait à sa joie, tous ces moments se présentaient à son imagination comme présents, réels. Auprès du blessé qu'il lui semblait connaître, les médecins s'empressaient, on le relevait, on le calmait. « Montrez-la-moi. Oh, oh !» gémissait-il d'une voix horrifiée, entrecoupée de sanglots, s'abandonnant sans force à sa souffrance. En écoutant ces gémissements, le prince André avait envie de pleurer. Était-ce parce qu'il mourait obscurément ? Était-ce parce qu'il regrettait de quitter la vie ? Est-ce à cause de ses souvenirs d'une enfance à jamais perdue ? Était-ce parce qu'il souffrait que des autres souffraient et que cet homme gémissait si lamentablement ? Mais il avait envie de pleurer, de verser de douces larmes d'enfant, presque joyeuses. On montra au blessé sa jambe coupée dans sa botte couverte de sang coagulé. Le médecin qui se tenait près du blessé et cachait son visage s'écarta. « Mon Dieu, qu'est-ce donc ? Comment est-il ici ? » se demanda le prince André. Dans ce malheureux, sanglotant et épuisé auquel on venait d'enlever la jambe, il avait reconnu Anatole Kouraguine. On le soutenait sous les bras et on lui donnait à boire de l'eau dans un verre dont il ne parvenait pas à saisir le bord de ses lèvres tuméfiées et tremblantes. Il hoquetait péniblement. Oui, c'est lui. Oui, quelque chose nous lie étroitement, douloureusement, cet homme et moi, songeait le prince André. Comment est-il lié à mon enfance, à ma vie ? Se demandait-il sans trouver de réponse. Et brusquement, un nouveau souvenir surgit en son esprit, le souvenir inattendu d'un monde d'amour pur, enfantin. Il se rappela Natacha telle qu'il l'avait vue pour la première fois au bal en 1810, avec son cou et ses bras minces, son visage effrayé, heureux, au seuil du ravissement. Et il ressentit pour elle une tendresse plus intense, plus vivante que jamais. Il se rappela alors quel était ce lien entre lui et cet homme qui, à travers les larmes qui embuaient ses yeux gonflés, posait sur lui un regard trouble. Le prince André se souvint de tout, et une pitié et un amour exalté pour cet homme remplir son cœur heureux. Il fut incapable de se contenir davantage et laissa couler ses larmes de tendresse et d'amour. Il pleurait sur les hommes, sur lui-même, sur leur égarement et sur les siens. Oui, la pitié, l'amour, aimer nos frères, aimer ceux qui nous aiment et ceux qui nous haïssent, aimer nos ennemis. Oui, c'est l'amour qu'enseignait Dieu sur la terre et que je ne comprenais pas. Voilà ce qui me faisait regretter la vie. Voilà ce qui me resterait si je devais encore vivre. Mais il est trop tard maintenant, je le sais. À l'image d'André Bolkonski, l'œuvre de Tolstoï invite à une méditation sur le sens de la vie et le sens de l'histoire. Après la bataille de Borodino, le rapport des forces s'inverse. Grâce à la stratégie d'usure du commandant en chef Kutuzov, les Russes repoussent la Grande Armée jusqu'au fameux passage de la Bérézina, qui provoque la débâcle des troupes françaises. Malgré sa victoire finale, Kutuzov est désavoué publiquement par ses maréchaux et par l'empereur Alexandre Ier lui-même pour avoir tardé à mener l'offensive. Pour Tolstoï, l'enjeu de guerre et paix consiste à démontrer la vanité des grands hommes et à critiquer la notion de génie militaire. Aussi l'écrivain prend-il à l'encontre de Napoléon un ton violemment ironique. Mais, prenant la défense de Kutuzov, il rend hommage à la grandeur d'âme de cet homme solitaire et méprisé qui meurt d'épuisement en 1813. Pour les historiens russes, c'est étrange et terrible à dire, Napoléon, cet insignifiant instrument de l'histoire qui nulle part, jamais, pas même en exil, n'a fait preuve de dignité humaine, Napoléon est un objet d'admiration et d'enthousiasme. Il est grand. Mais Kutuzov, cet homme qui du début à la fin de son activité en 1812, depuis Borodino jusqu'à Vilna, s'est toujours montré fidèle à lui-même dans ses actes et ses paroles, a laissé un exemple exceptionnel dans l'histoire d'abnégation et de prescience du sens des événements que découvrira l'avenir. Kutuzov n'est pour ses historiens qu'un personnage inconsistant, pitoyable. Et parlant de Kutuzov et de l'an 12, ils ont toujours, semble-t-il, un peu honte. Et cependant, il serait difficile même d'imaginer un personnage historique dont l'action fut aussi invariablement et continuellement dirigée vers un but unique. Il serait difficile d'imaginer un but plus digne de la volonté de tout un peuple et mieux en harmonie avec elle. Kutuzov n'a jamais parlé des 40 siècles qui le contemplent du haut des pyramides, des sacrifices qu'il accomplit pour la patrie, de ce qu'il a l'intention d'accomplir ou qu'il a déjà accompli. En général, il ne parlait pas de lui-même. Ne jouait aucun rôle, semblait toujours l'homme le plus simple et le plus ordinaire, et disait les choses les plus simples et les plus ordinaires. Il écrivait des lettres à sa fille et à Madame de Staël, lisait des romans, aimait la société des jolies femmes, plaisantait avec les généraux, les officiers et les soldats. Ses actes, tous, sans la moindre exception, étaient dirigés vers un seul et même triple but, tendre toutes ses forces pour soutenir le choc des Français, les vaincre, les chasser de Russie en atténuant autant que possible les souffrances du peuple et des troupes. Kutuzov, ce temporisateur dont la devise était « patience et longueur de temps », lui seul, tout au long de la retraite de Borodino, insista pour qu'on ne livrât pas de combat, ceci étant devenu inutile. Lui seul insista ensuite pour ne pas entreprendre une nouvelle guerre et ne pas franchir les frontières de la Russie. Comment ce vieil homme, seul contre tous, a-t-il pu déjà alors deviner le sens qu'avait l'événement dans l'esprit du peuple, et cela avec une telle justesse que pas une fois il ne le trahit. C'est parce qu'il reconnut en Kutuzov la présence de ce sentiment noble qu'il portait en lui dans toute sa force et toute sa pureté, que le peuple réussit par des voies étranges à imposer, contrairement à la volonté du tsar, le vieillard en disgrâce comme le représentant de la guerre nationale. Et seul ce sentiment l'éleva à cette suprême altitude du haut de laquelle, en sa qualité de commandant en chef, il dirigeait ses forces non pour tuer et exterminer des hommes, mais pour les aider et les sauver.
Vladimir Yankelevitch.
Vous vous rappelez sans doute des passages spécialement frappants de Guerre et Paix, dans lequel il est question de grands personnages historiques, tels que Napoléon lui-même, et Tolstoï attire l'attention sur les mains blanches et dodues de Napoléon, sur le soin qu'il apporte à se parfumer avec de l'eau de Cologne, à faire sa toilette le soir d'une bataille. Et cette passion du détail fait partie, en somme, chez Tolstoï, d'une grande entreprise de démystification. Une grande entreprise qui est au service de la seule vérité, fut-elle très humble. Il s'agit d'en finir avec les mythes et les impostures, les grandes vérités pseudo-historiques, de dépouiller en somme tout ce qui fait écran entre l'homme et le réel.
Reprenons le fil du récit. Pour Nicolas Rostov, c'est bientôt la promesse d'une paix retrouvée. Mais à quel prix ? De retour de guerre, ruiné par les dettes de jeu, Nicolas Rostov retrouve une vie digne grâce à un mariage de raison avec la princesse Marie, la sœur d'André Bolkonski. Mais cette union est le fruit d'un sacrifice déchirant, celui de Sonia, la petite orpheline sans dot, contrainte de renoncer à son amour de jeunesse. Découvrons les sentiments contradictoires de la jeune fille qui crie à l'injustice et ne peut s'empêcher de croire encore à la Providence. Nous sommes en 1812, à Moscou, pendant le siège de la ville par les Français. La famille Rostov se prépare à fuir la ville, soumise aux incendies et aux pillages. Le prince André à l'agonie est soigné avec ferveur par Natacha. À noter que dans la culture orthodoxe, deux frères et sœurs d'une famille ne peuvent épouser deux frères et sœurs d'une autre famille. La pensée de faire épouser son fils à une riche héritière ne cessait de poursuivre la vieille comtesse Rostov. Elle savait que le principal obstacle était Sonia. Et les derniers temps, et surtout après la lettre de Nicolas qui décrivait sa rencontre à Boucharovo avec la princesse Marie, la vie de Sonia devenait de plus en plus difficile. La comtesse profitait de la moindre occasion pour lancer à Sonia des allusions offensantes ou cruelles. Quelques jours avant le départ de Moscou, la comtesse fit appeler Sonia et au lieu de lui faire des reproches et d'exiger, la supplia en pleurant de se sacrifier, de rompre ses liens avec Nicolas, en reconnaissance de tout ce qu'on avait fait pour elle. « Je ne serai tranquille que quand tu m'auras fait cette promesse. » Sonia éclata en sanglots, répondit à travers ses larmes qu'elle ferait tout, qu'elle était prête à tout, mais ne donna pas de promesse formelle, au fond d'elle-même ne pouvant se résoudre à ce qu'on exigeait d'elle. Il fallait se sacrifier pour le bonheur de la famille qui l'avait nourrie et élevée. Se sacrifier à autrui lui était habituel. Étant donné sa situation dans la maison, ce n'était qu'en suivant la voie du sacrifice qu'elle pouvait donner sa mesure. Et elle y était habituée, et elle aimait se dévouer. Mais auparavant, lorsqu'elle se sacrifiait, elle se rendait compte avec joie qu'elle grandissait à ses propres yeux et aux yeux des autres, et devenait plus digne de Nicolas, qu'elle aimait plus que tout au monde. Et maintenant, son sacrifice devait consister à renoncer à ce qui la récompensait de tous ses sacrifices, à ce qui donnait un sens à sa vie. Et elle ressentit pour la première fois de l'amertume envers ces gens qui l'avaient comblée de bienfaits pour la mieux tourmenter. Elle ressentit de la jalousie envers Natacha, qui, elle, n'avait jamais rien connu de pareil, qui n'avait jamais dû se sacrifier, qui obligeait les autres à se sacrifier pour elle et que tout le monde aimait pourtant. Et Sonia avait pris pour la première fois conscience que du fond de son calme et pur amour jaillissait une passion ardente qui était au-delà et des règles, et de la vertu, et de la religion. Les fracas et les angoisses des dernières journées à Moscou avaient étouffé les sombres pensées qui tourmentaient Sonia. Mais quand elle eut appris la présence du prince André, tout en ayant sincèrement pitié de lui et de Natacha, elle fut saisie d'une joie superstitieuse à la pensée que Dieu ne voulait évidemment pas la séparer de Nicolas. Elle savait que Natacha n'aimait que le prince André et n'avait jamais cessé de l'aimer. Elle savait que, réunis à présent dans de si effroyables circonstances, ils s'aimeraient de nouveau et qu'alors Nicolas ne pourrait épouser la princesse Marie, vu leur lien de parenté. En dépit de toute l'horreur des derniers jours à Moscou et des premiers jours de voyage, ce sentiment, cette pensée de l'intervention de la Providence dans ses affaires personnelles réjouissait Sonia. Elle sentit avec joie le réveil en elle de cet esprit de sacrifice dans lequel elle se plaisait à vivre et qui lui était habituel. Et consciente d'accomplir joyeusement une action généreuse, interrompue à plusieurs reprises par les larmes qui embuaient ses yeux noirs veloutés, elle écrivit cette lettre qui bouleversa Nicolas. « Il m'était trop pénible de penser que je puisse être la cause de chagrin et de dissension dans une famille à laquelle je dois tant. écrivait Sonia. « Et mon amour n'a d'autre but que le bonheur de ceux que j'aime. C'est pourquoi je vous supplie, Nicolas, de vous considérer comme libre et de vous souvenir qu'en dépit de tout, personne ne peut vous aimer davantage que votre Sonia. Je vous aime comme un frère et je vous aimerai toujours. » Ainsi se font et se défont les liens entre guerre et paix, entre les héritiers de ces trois grandes familles russes. Après la bataille de Borodino, le prince André connaît un second miracle, celui de mourir dans les bras de Natacha après lui avoir pardonné son infidélité passée. De son côté, Pierre est devenu veuf suite à une grave maladie de sa femme Hélène. En homme d'action, il rejoint un temps le front, puis s'illustre pendant le siège de Moscou. Il conçoit le projet d'assassiner Napoléon, mais il est fait prisonnier par les Français. Après la défaite de la Grande Armée, de retour de captivité, il décide de quitter Moscou pour Pétersbourg. Avant son départ, il rend visite à la princesse Marie, la sœur d'André. Il est soudain envahi d'une émotion inespérée. Dans une petite chambre basse de plafond, éclairée par une seule bougie, la princesse Marie était assise avec une personne en robe noire. « Ne la reconnaissez-vous pas ?» dit la princesse troublée. Pierre regarda encore une fois le visage fin et pâle, aux yeux noirs et à la bouche étrange de la dame de compagnie. Quelque chose de proche, oublié depuis longtemps. Quelque chose qui était plus que plaisant, le regardait à travers ses yeux attentifs. « Mais non, cela ne se peut, se dit-il. Ce visage sévère, maigre, pâle et vieilli, ce ne peut être elle. Ce n'est que le reflet de ce qu'elle fut. » Mais à ce moment, la princesse Marie dit « Natacha » et le visage aux yeux attentifs sourit avec peine, avec effort, comme s'entr'ouvre une porte au gond rouillé. Et de cette porte ouverte un souffle de ce bonheur depuis longtemps oublié auquel, maintenant surtout, il ne pensait pas, parvint jusqu'à lui et l'enveloppa. Un souffle le caressa, l'enveloppa et l'absorba tout entier. Lorsqu'elle sourit, il ne pouvait plus y avoir de doute. C'était Natacha, et il l'aimait. Dès la première minute, involontairement, Pierre dit à elle et à la princesse Marie, et à lui-même surtout, le secret que lui-même ignorait. Il rougit de joie, mais aussi douloureusement. Il voulait cacher son émotion. Mais plus il voulait la cacher, plus clairement que n'auraient pu le faire les paroles les plus précises, il disait et à elle, et à la princesse Marie, et à lui-même, qu'il l'aimait. Mais lorsqu'il voulut reprendre l'entretien avec la princesse Marie, il regarda à nouveau Natacha, et une rougeur encore plus vive se répandit sur son visage, et un émoi encore plus violent, à la fois joyeux et craintif, envahit son âme. Il s'embrouilla dans ses mots et s'arrêta au milieu de son discours. Le lendemain, Pierre retourna dîner chez la princesse Marie. En entrant dans la maison, il douta soudain d'être venu ici la veille, d'avoir vu Natacha, d'avoir causé avec elle. Peut-être ai-je imaginé tout cela. Mais à peine fut-il entré dans la pièce, il ressentit dans tout son être la présence de Natacha. Elle portait la même robe noire, aux plis souples, et était coiffée comme la veille, mais elle était tout autre. Elle était telle qu'il l'avait connue presque enfant et ensuite fiancée au prince André. Une lueur interrogative brillait dans ses yeux. Son visage avait retrouvé une expression tendre et étrangement espiègle. Est-il possible que cette main, ce visage, ces yeux, ce trésor de charme féminin qui m'est encore étranger, est-il possible que tout cela soit un jour à moi et pour toujours, me devienne familier ? Non, cela n'est pas possible. Après le dîner, en lui disant adieu, il prit sa main fine et maigre. Il la retint involontairement un peu longuement dans la sienne. « Au revoir, comte, » lui dit-elle à haute voix. Et elle ajouta à voix basse, « Je vous attendrai avec impatience. » Et ces simples mots, le regard, l'expression du visage qui les accompagnait, devinrent pour Pierre durant 2 mois l'objet de souvenirs inépuisables, de réflexions et d'heureuses rêveries. Oui, comment a-t-elle dit ? Oui, je vous attendrai avec impatience. Comme je suis heureux, se répétait-il.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Léon Tolstoï.
La religion, c'est le rapport de l'homme envers la vie éternelle, envers Dieu. Rapport établi en accord avec la raison et la science contemporaine et qui seul pousse l'humanité en avant vers le but qui lui est assigné.
Avançons encore dans le temps et approchons du dénouement de l'histoire. Nous sommes en 1820. De retour de Pétersbourg, où il a participé à la création d'une société secrète pour réformer le pays, Pierre se lance dans une discussion politique enflammée en compagnie de son beau-frère, Nicolas Rostov. Cette société annonce le mouvement des décembristes, constitué d'ex-officiers ayant combattu dans la campagne de Russie, qui sera l'initiative d'un coup d'État avorté contre le tsar le 14 décembre 1825. Fidèle à son tempérament d'homme d'action, Pierre lance le mot d'ordre final qui clôt l'intrigue de guerre et paix. Mais où veux-tu en venir ? Dit Nicolas. Eh bien, tout croule, continua Pierre. Dans les tribunaux, le vol. À l'armée, le bâton. Le pas de parade, les colonies militaires. On torture le peuple, on étouffe l'instruction. Tout ce qui est jeune, honnête, on l'extermine. Tout le monde voit que ça ne peut pas continuer ainsi. La corde est trop tendue et se rompra inéluctablement. L'instruction, la bienfaisance, c'est très bien évidemment. La tâche est splendide et tout, mais dans les circonstances actuelles, il faut autre chose. Mais dans quel but agir ? S'écria Nicolas. Et quels seront vos rapports avec le gouvernement ? Natacha, rentrée dans la pièce au milieu de la conversation, regardait avec joie son mari. Elle ne se réjouissait pas de ce qu'il disait, cela ne l'intéressait même pas, mais elle savait d'où cela venait. Elle connaissait toute l'âme de Pierre. Elle se réjouissait de le voir animé et exalté. Voici quel rapport renchérit Pierre, des rapports de collaboration. La société ne peut pas être secrète si le gouvernement admet son existence. Non seulement elle n'est pas hostile au gouvernement, mais c'est une société de vrais gentlemen dans le plein sens du terme, qui œuvre uniquement pour le bien général et la sécurité générale. Oui, mais une société secrète, donc nécessairement hostile et nuisible au gouvernement, ne peut engendrer que le mal, rétorqua Nicolas. Pourquoi s'enflamma Pierre ? Tout est mauvais, ignoble, je suis d'accord. Mais notre société, je ne comprends pas. Si on n'est pas content, alors la révolte. Ça, c'est bien. Je suis votre homme. En conclusion, écoutons la leçon d'histoire à la fois modeste et utopique que nous livre Tolstoï à la fin de son œuvre magistrale. Dans son épilogue, l'écrivain tente de répondre à cette grande question. Quelle est la force qui met en mouvement les peuples ? Selon lui, ce ne sont pas les grands hommes, mais l'ensemble des hommes qui font l'histoire. Et écrire l'histoire de tous les hommes reste une tâche paradoxale, aussi nécessaire qu'impossible. Une locomotive est en marche. On demande pourquoi marche-t-elle ? Un paysan dit « c'est le diable qui l'a fait avancer ». Un autre dit « la locomotive marche parce que les roues tournent ». Un troisième dit « la cause du mouvement est dans la fumée qu'emporte le vent ». La seule notion qui puisse expliquer la marche de la locomotive est celle d'une force égale au mouvement visible. La seule notion susceptible d'expliquer le mouvement des peuples est celle d'une force égale au mouvement total des peuples. Pour les uns, c'est une force appartenant en propre aux héros, comme le paysan voyait le diable dans la locomotive. Pour d'autres, une force produite par d'autres forces, comme le mouvement des roues. Pour les troisièmes, l'effet d'influences intellectuelles comme la fumée emportée par le vent. Tant qu'on écrira l'histoire des individus, des César, des Alexandre, des Luther ou des Voltaire, et non pas l'histoire de tous les hommes, de tous ceux, sans une seule exception, qui ont participé à l'événement, il est absolument impossible de décrire le mouvement de l'humanité.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Benjamin Vignal à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourosilikwa, Perrine Malinge, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.